RFI, il est tout juste 10h, temps universel. Midi, ici à Paris, 21h à Nouméa. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
C'est l'heure du choix en France. Premier tour des élections législatives à suspense après la dissolution annoncée par le président Macron il y a 3 semaines. Les bureaux de vote en métropole sont ouverts depuis 8h ce matin. Il y avait foule, vous l'entendrez, en Nouvelle-Calédonie. Scrutin très suivi là-bas et sous haute surveillance dans l'archipel après les récentes émeutes. À la une aussi le dialogue, mais à quel prix? La communauté internationale rencontre les talibans à partir d'aujourd'hui. Conférence Doha 3 organisée par l'ONU. Et en une avalanche de critiques, la société civile et notamment les femmes afghanes n'ont pas voix au chapitre. Et puis l'Euro de football et la gueule de bois en Italie, éliminée hier par la Suisse. Commentaire au vitriol dans les journaux ce matin. Honte, naufrage, faillite, désastre, humiliation et j'en passe, la presse sportive ne s'en remet pas. Oui, certains se sont levés tôt ce matin pour aller voter dès l'ouverture des bureaux de vote en France pour cette élection très particulière. Premier tour des législatives anticipées, donc 3 semaines après la dissolution surprise et les soubresauts politiques qui ont suivi. Le scrutin s'est ouvert donc à 8h en métropole. Il y a maintenant 4h. Les analystes annonçaient une forte mobilisation. Et Simon Rosé, ça se confirme avec les chiffres de la participation à midi qui viennent de tomber à l'instant.
Et oui, 25,90%, c'est déjà plus qu'aux élections européennes il y a 3 semaines. À la même heure, le taux de participation était de 19,81%. Des élections législatives qui s'annoncent donc très suivies. Une participation en hausse déjà dans les territoires d'outre-mer qui ont voté. Un nombre record de procurations, plus de 2,6 millions. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Cela va à rebours des deux derniers scrutins similaires, les dernières législatives en 2017 et 2022. Moins de la moitié des électeurs s'étaient alors déplacés. Beaucoup de votants, cela aura une incidence, Charlotte, puisque ça augmente la possibilité pour un candidat de se qualifier pour le second tour. Il faut en effet obtenir un résultat d'au moins 12,5% des inscrits pour y accéder.
Et preuve de cette participation, les queues, les files d'attente que l'on voit dans certains bureaux de vote depuis ce matin. Plusieurs responsables politiques aussi ont déjà fait le déplacement.
Oui, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, membre du nouveau Front Populaire à Hénin-Beaumont, dans le Nord. Son allié de la France Insoumise, Manuel Bompard, a voté à Marseille. Jordan Bardella, du Rassemblement National, c'est quant à lui rendu à Garches, en région parisienne, et c'était au Havre pour l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, membre de la majorité.
Simon Rosé, participation donc à 25,90% à midi selon le ministère de l'Intérieur. Décalage horaire oblige. Les bureaux sont fermés désormais en Nouvelle-Calédonie. Un scrutin organisé sous haute surveillance dans cet archipel du Pacifique secoué ces dernières semaines par de violentes émeutes contre la réforme électorale. Alors à l'exception d'une commune où cela s'est mal passé. Globalement, les Calédoniens ont pu voter dans le calme. Reportage à Nouméa, Charlotte Manvi.
À voter.
Avant d'entendre le fameux sésame, mieux valait s'armer de patience dans ce quartier populaire de Nouméa. Une heure avant l'ouverture du scrutin, de nombreux électeurs faisaient déjà la queue. Une mobilisation qui remonte le moral de Josette après 7 semaines de violence.
Très motivée, très très motivée. Là, c'est pas comme d'habitude. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Oh, je m'en fous. Complètement. Je crois que c'est un déclic là, ça fait très plaisir, hein, ça fait très plaisir. Ouais. Tout le monde bouge, tout le monde a envie de voir changer le pays.
Les jeunes sont particulièrement nombreux à attendre, foulard blanc sur la tête. Emmanuel est venu avec plusieurs amis. Pour lui, voter, c'est continuer de se mobiliser.
Il faut qu'on change, il faut qu'il y ait du changement. La jeunesse, c'est pour ça qu'elle s'est manifestée. La jeunesse qui a été oubliée. Pendant les 30 ans, on a mis de côté la jeunesse. Là, c'est exprimé. Je crois que les votes, là, ça va peut-être changer la donne.
Pas de transport en commun depuis des semaines et des bureaux regroupés pour assurer la sécurité du vote. Certains électeurs ont donc dû marcher plusieurs kilomètres pour venir voter, comme l'a constaté Valérie, président d'un bureau.
Les gens sont venus voter en masse. Pourtant, les bureaux de vote sont assez excentrés par rapport au lieu d'habitation des personnes. Mais oui, les gens se sont déplacés en masse. Habituellement, on est situé plus près de leur domicile habituel. Mais voilà, malgré tout, les gens font l'effort de venir voter.
À midi, la participation était 2 fois supérieure à celle de 2022. Une seule commune sur la côte Est n'a pu organiser le scrutin. La mairie de Wailou a été bloquée par des manifestants et la gendarmerie de la commune assaillie à l'aide d'un camion bélier. Charlotte Manvi, Nouméa. RFI.
Les législatives anticipées en France, premier tour d'un scrutin décisif à suivre en live sur RFI.fr. Et puis édition spéciale à l'annonce des résultats ce soir. Rendez-vous à partir de 17h45, temps universel. Vers une nouvelle alliance au Parlement européen, c'est ce que souhaite Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Il souhaite donc former un nouveau groupe qui comprendrait le parti d'extrême droite autrichien et le mouvement de l'ancien Premier ministre populiste tchèque Andrej Babiš. Cette nouvelle alliance aura besoin du soutien de 4 autres pays pour être reconnue comme un groupe parlementaire. Les talibans, qui dirigent l'Afghanistan depuis 2021, n'avaient pas été invités pour la conférence Doha 1 l'an dernier. Pour Doha 2, ils avaient refusé l'invitation. Et voilà, pour Doha 3, ils sont bien là, autour de la table, avec les Nations Unies. Aujourd'hui et demain, ça se passe à Doha. Conférence internationale, sans la société civile et les organisations de femmes, exclues donc des discussions. C'était une condition des talibans, condition acceptée. Alors, de quoi est-il question à Doha, Vincent Souriau? Quelles sont les priorités?
C'est leur économie, leur secteur privé qui inquiète les talibans. À Doha, ils viennent chercher de l'aide, d'abord pour leurs agriculteurs. Depuis avril 2022, depuis que la culture du pavot, la plante à opium, est interdite en Afghanistan, le pouvoir d'achat des paysans afghans s'est écroulé. La délégation talibane, très fière de sa politique anti-drogue, espère obtenir de la communauté internationale des compensations. Ensuite, les transactions financières, quasi impossibles depuis la chute de Kaboul. Le chef du bureau politique des talibans à Doha réclame rien de moins que la levée des sanctions internationales, et lorsqu'on lui demande ce que son gouvernement est prêt à offrir en échange sur la question clé du droit des femmes par exemple, Souhil Chahine dégaine une fois de plus la même réponse.
L'éducation des femmes, c'est un problème que nous voulons régler, mais à notre façon, conformément à nos valeurs et aux traditions de la société afghane. Nous le prenons en considération, mais compte tenu de nos valeurs, la solution ne sera peut-être pas la même selon qu'on traite ce problème en fonction de vos critères occidentaux ou en fonction de nos sociétés et de nos traditions.
Sur ce dossier central, les talibans n'ont fait aucune concession. Au contraire, les droits des femmes continuent de régresser et à ce stade, rien n'indique que l'ONU puisse inverser la tendance.
Vincent Souriau, ça continue à gagner. Gaza, pas de répit, nouveau bombardement israélien ce dimanche dans le territoire palestinien, notamment dans le nord sur la ville de Gaza. À Tel Aviv, des milliers de manifestants se sont de nouveau rassemblés hier, comme chaque semaine depuis le début de la guerre, pour réclamer le retour des otages et protester contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils rentreront au pays sur la pointe des pieds, les joueurs de la Squadra Azzurra, après l'élimination de l'Italie hier à l'Euro de football, échec de 2-0 face à la Suisse pour la tenante du titre, et c'est un coup de bambou en Italie où des commentaires acides font la une des journaux ce matin, Anne Lenir.
La célèbre Gazzetta Sportiva aux feuilles roses titre en une page noire pour notre foot. Tout est à reconstruire. Pour ce quotidien sportif le plus lu d'Italie, le sélectionneur Luciano Spalletti est l'accusé numéro 1 en raison de ses trop nombreuses erreurs techniques et tactiques. Du coup, je cite, l'Italie a joué sans caractère, sans honneur et sort de l'Euro 2024 humiliée par la Suisse. De son côté, la Repubblica parle de la petite Italie qui rentre déjà à la maison et souligne, il faut beaucoup de mémoire pour se souvenir d'une équipe nationale aussi mauvaise que celle-ci et beaucoup de fantaisie pour en imaginer une meilleure. On a vu une équipe qui n'a même pas donné l'illusion d'exister, ne serait-ce qu'une minute. Il Corriere della Sera estime que personne n'est à sauver après cette défaite écœurante qui exige une réflexion collective. Même ton pour Il Fatto Quotidiano, désastre total pour la Squadra Azzurra, sans jeu et son cœur. Anne Lenir, Rome, RFI.
L'Allemagne, pays hôte, elle s'est qualifiée pour les quarts. 2 matchs à suivre ce dimanche dans cet Euro de foot. Angleterre-Slovaquie, puis Espagne-Géorgie. Et puis le Tour de France, la grande boucle. Les coureurs sont fin prêts pour s'élancer d'ici quelques minutes là pour la 2e étape. Toujours en Italie, toujours sous le soleil. Cette étape Cesenatico Bologne. Et c'est le Français Romain Bardet qui porte le maillot jaune. RFI presque 12h10 ici à Paris. Tout de suite, Religion du Monde avec Véronique Guémard. À tout à l'heure.